enquête criminelle, des chefs d'homicide volontaire et une enquête délictuelle pour violence aggravée par trois circonstances. Les trois circonstances, c'est réunion, masqué et porteur d'armes. Et du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de 5 ans d'emprisonnement a été confié au service de police de Lyon, de la division criminelle territoriale.
Voilà, ça c'est le procureur de Lyon qui a donc ouvert une enquête pour meurtre après la mort de Quentin, ce jeune militant ultra-droite de 23 ans qui a été roué de coups et laissé pour mort. Quentin est donc mort et il y a des hommes ou des femmes en liberté qui n'ont toujours pas été interpellés. Mais visiblement l'étau se resserre puisque désormais les enquêteurs cherchent 6 suspects. Ils auraient été, selon certains médias, identifiés. Pour la plupart membres de la Jeune Garde, ce mouvement antifa ultra-gauche proche d'LFI, et fichés S, donc c'est-à-dire des jeunes qui sont connus des services de police et suivis par le renseignement. Alors pour l'instant, pas d'interpellation. D'ailleurs, on peut s'étonner, 5 jours après les faits, peut-être qu'elles arriveront dans la journée. En tout cas, les suspects ont été identifiés, donc, est-ce que, selon vous, l'étau se resserre sur l'ultra-gauche? Question posée dans les grandes gueules, Emmanuel Devilliers.
Oui, indiscutablement, c'est un fait divers extrêmement grave qui vient à un moment très pessimiste, très mauvais pour la France insoumise, qui était déjà un peu entre deux eaux politiquement, avec un leader, Jean-Luc Mélenchon, qui est de plus en plus contesté, qui n'a plus du tout les mêmes intentions de vote que lors des derniers scrutins présidentiels. Donc c'est un peu un effet révélateur. Du soubassement de la France insoumise qui était sous couvert d'être un mouvement faussement généreux d'extrême gauche est un mouvement en fait qui fait pression sur la population française par un certain nombre de thèmes, par un certain nombre d'alibis électoraux et les moments qui vont venir seront sombres pour la France insoumise et on peut s'en féliciter.
Maître Pégan, donc c'est une enquête pour meurtre maintenant qui a été ouverte.
Une enquête pour meurtre et une autre enquête pour violence aggravée. Donc là, il y a une enquête criminelle et une enquête délictuelle. Donc là, c'est une enquête de flagrance. L'enquête de flagrance, je vais faire un petit peu de droit, c'est 8 jours maximum. C'est-à-dire qu'ensuite de quoi, il devra obligatoirement ouvrir une information judiciaire. Éventuellement, il peut prolonger d'une durée de 8 jours. Et donc là, après, on passera sous la houlette d'un juge d'instruction avec d'autres prérogatives.
Mais ce que je comprends pas, c'est qu'à la fois, on apprend que les suspects auraient été identifiés, parce qu'en plus, ils ont été filmés, s'ils appartiennent à un mouvement qui est très suivi par les services de renseignement.
Alors, filmés, mais cagoulés, hein.
Oui, mais ouais, la Jeune Garde, notamment, est très suivie par les services de renseignement. D'ailleurs, c'est un mouvement qui a été dissous par le ministre de l'Intérieur.
Et toujours en recours administratif.
Son cofondateur, Raphaël Arnaud, qui est député LFI et fiché S, donc tout le monde est bien connu, suivi. Pourquoi, connaissant les suspects, on ne les interpelle pas tout de suite?
Tout simplement parce que pendant les 48 heures de garde à vue, il faut bien qu'on les cuisine. Et donc, si simplement tu les as identifiés, mais qu'il n'y a pas d'autres éléments, parce que donc là, en fait, c'est quand même une enquête de flagrance qui est ouverte pour homicide volontaire.
Donc ça veut dire avec une intention. Il faut rassembler tous les éléments nécessaires avant de mettre ces gens en garde à vue.
Pour que pendant 48 heures, tu puisses avoir le temps de les cuisiner, de les passer à table, si tu l'expression. Parce que nous, en tant qu'avocat, après, en tant qu'avocat de la défense, on fait le nécessaire auprès du procureur en disant, bah, écoutez, vous n'avez aucun élément à charge, ça ne sert à rien de...
Et la garde à vue, c'est seulement 2 jours.
Oui, parce que là, on est en matière criminelle. Ça pourrait basculer éventuellement sur le plan terrorisme, mais bon, là, il faudrait vraiment prouver, en tout cas, mettre en avant le fait qu'il y ait l'instigation d'une terreur pour le peuple. On n'en est pas là. Donc là, c'est 48 heures maximum au niveau de la garde à vue.
Abel Boyi.
Moi, j'espère qu'on ne va pas se retrouver face à une situation qui manifeste une grande hypocrisie. Il faut savoir que Lyon et les alentours est le théâtre depuis de nombreuses années d'affrontements entre l'ultra-gauche et des militants tarés, mais aussi l'ultra-droite et des militants tout aussi tarés de leur côté. Donc il faut tout à fait rappeler que s'il est inadmissible que ce jeune soit mort dans ces conditions, surtout que à la base, les manifestantes, c'était juste 7 femmes avec une banderole. Donc voilà, faut quand même rappeler les faits. Voilà.
Maintenant, il y avait des garçons aussi, puisqu'il y avait une quinzaine de garçons venu en renfort, dont Quentin. Il n'y avait pas que des femmes, il y avait effectivement des femmes
pour assurer
qui ont
sécurité.
Été agressées. D'ailleurs, l'une d'entre elles a été étranglée et
une autre
des blessures.
A été jetée au sol.
L'autre a été jetée au sol. Et il y avait des garçons un peu plus loin qui ne sont pas intervenus à ce moment-là. Une bande dont faisait partie Quentin.
Exact. Alors, attends, apparemment, Némésis n'aurait pas déclaré sa manifestation. Il y a aussi ça là qui est un petit peu en ce moment.
Oui, mais peu importe. On a un jeune qui est mort et ce qui est terrible, c'est qu'on ne combat pas, que ce soit l'ultra droite, l'ultra gauche, par la violence. On le combat sur le terrain des idées. Moi, quand je parle d'hypocrisie, j'espère que l'on va découvrir, qu'on ne va pas découvrir que parmi ces jeunes d'ultra-gauche, il y ait des enfants de notables et que c'est pour ça que l'affaire coince un petit peu. L'autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est le deux poids.
C'est vrai que souvent, au sein de ces mouvements ultra-gauche, c'est plutôt des petits bourgeois.
Oui, exactement.
C'est rarement des enfants d'ouvriers, des enfants des quartiers populaires, c'est souvent les petits bourgeois, notamment chez NPA, par exemple, mm-hmm. vos partis anticapitalistes ou effectivement la Jeune Garde.
Bien entendu, qui sont souvent bien organisés et qui ont les financements pour. Mais moi, ce que j'espère, comme je le rappelais, Lyon est le théâtre d'affrontements réguliers entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche, et je voudrais interpeller l'État. L'ultra-gauche, de toute façon, on sait que c'est eux sur le coup, donc c'est un faux suspense. Mais moi, j'aimerais rappeler que quand même, au mois de janvier, il y a Ismaël Ahali, qui s'est fait tuer, qui est un jeune qui avait la vingtaine, qui a été retrouvé dans un étang proche de Lyon et qui a été tué par l'ultra-droite, et ça n'a pas fait le même retentissement médiatique en fait. Donc l'État, pour moi, est une nouvelle fois défaillant parce que ce sont des affrontements qui sont réguliers, qui ne sont pas nouveaux, avec des blessures graves, avec des hospitalisations importantes, des ITT, etc. Et on attend toujours qu'il y ait un mort, deux morts, trois morts pour pouvoir surréagir. Donc moi j'espère qu'on va pouvoir mettre vraiment la lumière sur tous ces affrontements qui se passent sur Lyon et ailleurs afin qu'il n'y ait plus de drames comme celui-là.
Nous sommes avec Gérald qui nous appelle de Montpellier dans l'Hérault. Bonjour Gérald.
Bonjour à tous.
Bienvenue dans les grandes gueules. On s'interrogeait sur le fait que 5 jours après les faits, il n'y a pas eu d'interpellation pour le moment.
Évidemment, c'est inadmissible. Je trouve qu'il y a un deux poids deux mesures par rapport à ça. Je me demande, en fait, je me pose la question pourquoi en fait est-ce si long pour retrouver en fait des personnes de la Jeune Garde de l'ultra gauche, et c'est beaucoup plus facile de retrouver en fait des personnes qui sont de l'ultra droite et qui font quelques méfaits, et qui sont très rares par rapport à la Jeune Garde. Et donc ils ont le temps, évidemment, de pouvoir se concorder ensemble pour trouver un bon alibi, de squeezer un petit peu aussi les questions qui vont être posées, d'effacer toutes les preuves qui peuvent être liées à eux directement ou indirectement. C'est complètement dantesque de voir ça. Et je comprends pas, encore une fois, pourquoi cette milice de la Jeune Garde qui a quand même beaucoup de preuves contre elle sur les méfaits qu'elle a pu faire auparavant, qu'elle n'ait pas été encore dissoute par Gérald Darmanin.
Si, justement, elle a été dissoute par Gérald Darmanin, mais il y a eu un recours devant
Bruno Retailleau.
Oui, voilà. Mais
Bruno Retailleau, d'ailleurs. C'est Bruno Retailleau qui était mis
d'intérieur.
Le Conseil d'État n'a pas toujours statué. Alors, le Conseil d'État met du temps parce que je crois que le recours a été déposé en juin. Nous sommes donc en février. Alors, quand même, là, qu'est-ce qu'il fout au Conseil d'État? On peut se poser la question quand même.
Encore une fois, ce deux poids deux mesures, ça aurait été quand il y a eu la jeunesse identitaire qui avait en fait pour rôle juste de manifester contre l'immigration en France. Elle, on n'a pas, ça a mis beaucoup moins de temps pour pouvoir dissoudre ce type de groupuscule là que en fait le groupuscule d'ultra gauche.
Mais donc, bon, après vous avez dissous un groupuscule.
Il y en a d'autres qui naissent à côté.
Voilà, il y en a d'autres qui naissent. Et puis qu'est-ce qui empêche ces gens de se retrouver? Est-ce que c'est vraiment contrôlé? La dissolution, malheureusement, n'empêche pas le mouvement parfois de continuer sous d'autres formes, sous d'autres noms.
Eh ouais, mais je trouve que la Jeune Garde, elle, fait état de comment on appelle ça, le fer de lance aussi pour pas mal de manifestations, pour casser par exemple une manifestation des Gilets jaunes, une manifestation de l'ultra-droite, etc., ou même les manifestations de droite classique. Ils sont là en fait pour servir un petit peu l'État à casser ce tout type de mouvement. Bon, on le voit hein, quand il y a des policiers qui n'ont pas d'ordre de pouvoir rentrer dans le tas, quand ils cassent les vitrines ou quoi que ce soit, c'est quand même assez intriguant, j'ai envie de dire. Donc du coup, pourquoi sont-ils protégés? Qui sont ces gens-là? Est-ce que c'est des jeunes qui appartiennent à des personnes notables en fait dans notre pays ou quoi que ce soit? Ça vraiment, il faudrait le déterminer.
Emmanuel,
moi je crois, Gérald, tout en étant d'accord avec ce que vous venez de dire, que c'est aussi pour élargir l'ampleur des interpellations qui vont avoir lieu, qui vont être beaucoup plus larges que les simples protagonistes criminels qui vont être condamnés dans le futur. Mais il y a aussi une question de mots, c'est-à-dire qu'on a toléré depuis trop longtemps la notion d'antifa. Antifa, ça n'existe pas, parce que le fascisme n'est pas à nos portes. Il n'y a pas de fascistes. Moi, j'ai vu récemment un défilé de bruits de bottes, des vrais bruits de bottes. C'est pas ça que contre quoi ils combattent, ces antifas.
C'est
un alibi.
Ou ça, tu as vu
par exemple, les troupes polonaises, quand elles défilent, sont effectivement comme pendant la Deuxième Guerre mondiale ou du temps du communisme, c'est-à-dire que les bottes sont quasiment cloutées. Il y a vraiment un bruit quand vous avez une troupe qui se déplace. C'est vraiment l'image d'Épinal du fascisme, même oui, s'il s'agit d'une troupe militaire conventionnelle.
Troupe militaire.
Mais les antifas, c'est totalement bidon. C'est totalement bidon. En fait, ce sont eux les fascistes. Ils le exactement prouvent puisque ils utilisent la violence. On défend des idées masquées. On frappe un homme à terre à plusieurs dans la tête. C'est ça, défendre des idées politiques, être antifa?
Mais aujourd'hui, en plus, Emmanuel, c'est que frapper un adversaire devient un acte militant. C'est ça qui est juste incroyable dans la tête
et
maintenant.
Et de tous les partis, en réalité.
C'est ça. Je veux dire, tu ne peux même plus débattre de tes idées. C'est-à-dire qu'il faut frapper l'adversaire, il faut le tuer. Donc là, on arrivait à un lynchage pareil avec la mort de ce Quentin.
C'est mais moi, je rejoins. La différence, mon cher Abel, c'est que là, il y a une connexion directe avec un parti politique représenté à l'Assemblée nationale, qui est la France Insoumise, puisque ce sont des militants qui étaient dans l'étiage d'une conférence d'une députée européenne de la France Insoumise, quand il y a quelques barjots complètement illuminés, mais il y en a pas beaucoup, crois-moi, en France et en Navarre, qui se revendiquent d'être de droite. C'est totalement faux. Le nazisme était un parti national-socialiste. Oui, le nazisme est venu de la gauche.
Des mouvements d'ultra-droite, ça existe aussi.
Emmanuel, l'ultra-droite, c'est 11 morts depuis 2022 et 19 blessés. D'accord?
Le nazisme était un parti socialiste.
Tu ne parles pas du nazisme. Là, tu pars dans tous les sens.
Parce que tu dis ultra-droite, tu fais référence au nazisme, au fascisme. Le nazisme, Mussolini lui-même en Italie, était d'obédience socialiste.
Il parle pas du nazisme.
Droite aujourd'hui, il ne parle pas du nazisme.
Ismaël Ali, qui a été tué en mois de janvier, tu en as parlé, il a été retrouvé dans un étang et la justice a statué que c'était un crime raciste parce qu'il était arabe. Est-ce que tu en as parlé? Moi, je dénonce.
Je finis.
Mais toi, t'es un gros manipulateur parce que t'interprètes mal tout ce que je dis. Je parle du fait qu'il faut condamner toutes les violences, aussi bien celles de l'ultra-gauche. Mais c'est toi qui es démagogue.
C'est une démagogie.
Tu parles fort, tu veux qu'on mette encore la Marseillaise derrière toi. Moi, je t'ai laissé finir de parler. Toi, tu choisis ton camp. Moi, je dénonce toutes les violences. D'où qu'elles viennent. Donc oui, effectivement, l'ultra-gauche, elle doit rendre des comptes. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Mais il ne faut pas dire uniquement l'ultra-gauche et oublier ce qui se passe au niveau de l'ultra-droite.
Là, il y a un mort et pour l'instant il y a des gens qui sont pas arrêtés. C'est ça le sujet. C'est pas de faire référence à des statistiques bidons que tu sors de je ne sais où.
Bah non, mais tu peux les vérifier. C'est toi qui connais pas le sujet. Le sujet, je le connais un peu mieux que toi parce que moi j'interviens beaucoup plus sur le terrain.
Et la dernière chose,
c'est que je rejoins Gérald sur pourquoi est-ce que ça met du temps. Et je pense que l'on peut découvrir que parmi ces militants d'ultra-gauche, il y a des enfants de notables qui essaient d'étouffer l'affaire.
Mais comment tu peux raconter à une baliverne pareille?
Bien sûr que c'est la réalité.
La justice française, c'est un coup de fil d'un mec qui connaît quelqu'un.
Ah bon, ça n'existe pas. Si tu sais quel naïf. Là, t'as décidé de jouer au clown ce matin. Ça n'existe pas.
Si tu étais aussi expert en justice, tu saurais que rencontrer un juge dans une affaire judiciaire et essayer de lui parler d'un dossier, il n'y a rien de pire, c'est l'échec assuré.
Non mais là on n'est pas au niveau du juge, là on est au niveau juste des procureurs et des policiers. Là c'est que l'enquête de flagrance, hein. On n'est pas devant le juge d'instruction.
Abel fait état de relations qui pourraient permettre d'étouffer l'affaire.
Mais évidemment, ça n'existe pas.
On n'est pas au café du commerce.
La justice, elle est la même pour tout le monde. D'accord, il y a pas de problème. Tu vis dans le monde des oui-oui.
On va remercier Gérald d'être intervenu au 32-16. Dans un instant, Antoine. Et cette question, quelles conséquences pour la France insoumise, puisque il est avéré que la Jeune Garde a été mise en avant par Jean-Luc Mélenchon, qui avait choisi ce mouvement, notamment pour assurer la sécurité. Il était, souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon, allé au camp d'été de la Jeune Garde, c'était en 2023, et il investit Raphaël Arnaud, l'un des cofondateurs de la Jeune Garde, qui est devenu député du Vaucluse. Donc, est-ce que les temps sont mauvais pour la France insoumise? On est, je vous le rappelle, à 4 semaines d'un premier tour des élections municipales. À tout de suite sur RMC Story avec vous.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Maître Sandrine Pégan, notre avocate, Emmanuel Devilliers, l'entrepreneur, et Abel Boyer, l'éducateur. Nous sommes sur les conséquences de la mort de ce jeune militant de l'ultra-droite, Quentin Derenck, qui a été tué par au moins 6 personnes, roué de coups, lynché. L'enquête progresse puisqu'on nous dit que les suspects ont été identifiés. Selon certains médias, ils seraient pour la plupart membres de la Jeune Garde, fichés S. La Jeune Garde, c'est ce mouvement qui s'est rapproché de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, c'était son choix, hein, puisque l'été 2023, Jean-Luc Mélenchon prend la décision d'aller au camp d'été de la Jeune Garde, ce groupuscule qui se qualifie d'autodéfense. Bon, si ce sont eux, on voit que c'est plus vraiment de l'autodéfense, c'est de l'attaque, puisque là, ils ont participé à un lynchage. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a été plus loin, puisqu'il a fait investir Raphaël Arnaud, l'un de ses fondateurs, qui est devenu député en 2024, député du Vaucluse LFI, qui avait été pourtant condamné pour violence, condamnation d'ailleurs définitive, parce que je crois qu'il n'a pas fait appel. Bref, est-ce que ça sent mauvais pour la France insoumise, qui aurait dû sans doute être plus prudente avec ses liens tissés avec la Jeune Garde?
Pour moi, ça sent forcément mauvais, parce que Jean-Luc Mélenchon, qui aspire à être président de la République, doit rentrer dans une communication où il s'adresse à tous les Français et cesser de ne s'adresser qu'à ses militants. Donc il doit se désolidariser, parce que déjà LFI a une image qui est très écornée par rapport à la violence politique, et il est temps de rentrer dans une communication où ils ont besoin de rassurer. Peut-être qu'ils trouveront ça injuste, mais ils ont besoin de rassurer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne les comprennent plus. Déjà, ils ont perdu le milieu ouvrier, ils sont en train de perdre une partie des quartiers populaires, contrairement à ce qu'ils croient. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire attention, LFI nous utilise et tout. Donc moi, j'attends une communication claire, pas qu'ils viennent se mettre à genoux et demander pardon à tout le monde, mais qu'ils disent
quand
que la
on
France
aspire
insoumise,
à être président de la République,
on s'adresse à tous les Français.
On ne peut pas faire ça.
On ne peut pas faire ça, et on s'adresse à tous les Français et pas qu'à ses militants.
Maître Pégan.
Mais carrément, LFI, Mélenchon disait que la Jeune Garde, c'était un allié.
Oui.
Le terme est fort quand même, un allié. Donc c'est-à-dire que
et d'ailleurs, quand la Jeune Garde avait été dissoute par Bruno Retailleau, à l'Assemblée nationale, ils avaient apporté un soutien bruyant à la Jeune Garde. Ils avaient applaudi Raphaël Arnaud. Oui,
mais, et regarde là, à Strasbourg, ils investissent. Ils investissent Yolda, s'il s'appelle, ce militant d'extrême gauche, pour pouvoir être sur une liste municipale. Je dirais à un moment donné, c'est
Sam Yolas.
Sam Yolas, voilà. C'est quand même juste hallucinant de se dire qu'aujourd'hui, on va rechercher des militants d'extrême gauche de façon à pouvoir les mettre en avant et sous la houlette de la France Insoumise.
Emmanuel Devilliers.
Oui. La France Insoumise est en train d'être coincée comme dans une partie d'échecs. Une partie d'échecs à plusieurs niveaux, comme un parking. Il y a d'abord le fait que l'explosion de l'accord électoral du nouveau Front Populaire affaiblit considérablement les résultats potentiels de deuxième tour de la France Insoumise, évidemment au premier tour aussi, et que le nombre d'élus à des législatives va être amputé considérablement. Il ne va plus rester que les têtes de pont, dont peut-être M. Bompard, qui était très 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 bien élu la dernière fois.
Manuel Bompard qui sera face au GG tout à l'heure, voilà, à 11h.
Le deuxième niveau de partie d'échec où la France Insoumise est coincée, c'est dans le fait de cet événement à caractère assez historique, là, de la mort de ce jeune, que tu qualifies d'ultra-droite, mais ça, c'est tu cèdes à la pression médiatique et au prêt-à-penser.
Mon genre.
Au prêt-à-penser.
C'est un
militant patriote qui croyait en la France, qui affichait son catholicisme. Et depuis quand, en France, on n'a pas le droit de le faire? Depuis quand?
Non, mais Emmanuel, calme-toi.
Mais moi, je le rejoins. Emmanuel,
non, mais je ris pas du tout.
C'est
un mort.
C'est l'unité identitaire, c'est tout.
Non, mais le collectif Némésis, pardon, est un mouvement d'ultra-droite, et Quentin faisait partie de ce collectif, ou en tout cas était proche, puisqu'il était là avec eux. Voilà, de
il
dire ultra-droite.
Du service de sécurité.
Et ultra-gauche. Autant, moi.
Oui. Alors, non, j'allais au bout. Et même autant. Ses proches disaient qu'il était d'une mouvance radicale, même voilà. Si lui, il était plutôt calme. Ses proches même le disent.
Voilà. Donc, pardon. Voilà.
Un mort, c'est pas glorieux.
Bah non, mais
Emmanuel, il faut appeler un chat.
Suivre.
Moi, par exemple, je pense que je ne qualifie pas LFI d'extrême gauche, contrairement à ce que dit M. Nunez, parce que c'est un parti qui qui siège à l'Assemblée, qui joue le jeu républicain. Je ne qualifie pas le RN. Je ne qualifie pas le RN d'extrême droite. Je pense que le RN, c'est la droite radicale. En revanche, effectivement, Némésis ou d'autres, ce sont des mouvements d'ultra-droite, comme la Jeune Garde est un mouvement d'ultra-gauche. Et c'est ça qui fait la distinction, d'ailleurs, avec des partis qui jouent le jeu de la démocratie, qui se présentent à des élections et qui respectent les règles du jeu. Mais sinon, ce sont des mouvements, c'est des mouvements qui, comme le disait Sandrine, pense qu'il faut régler les problèmes à coups de poing dans la rue. Bah oui, c'est quand même.
Oui, mais bon, là, Némésis, c'était simplement cette femme.
Ce caractère de LFI coincé dans les échecs, c'est que ils vont être obligés de désavouer, puisque on entend de sources policières. Là, c'est pas du commentaire politicien ou orienté. On entend que les gens sont issus de la mouvance de la France insoumise. Les criminels qui ont été inculpés.
De la Jeune Garde.
Oui, mais c'est la France insoumise, c'est la même chose, c'était un jeu de poupées russes. Et donc, ils vont être obligés de désavouer. Donc, ils vont être obligés de se désavouer eux-mêmes, de désavouer leur base militante.
Tu crois que Jean-Luc Mélenchon sera capable de le faire?
Oui. Alors, on trouve maintenant, ils ouvrent des contre-feux. On ouvre des contre-feux absolument scandaleux, y compris sur les médias ce matin, en disant oui, attention, maintenant il faut craindre des ripostes parce qu'il y a quatre nazillons chômeurs qui sont là, essayer de faire une pancarte. Non, mais attendez, soyons sérieux. Là, il y a un mort, il y a un danger de guerre civile en France. La France insoumise monte les Français les uns contre les autres. Alors moi, je vais lui dire à Bompard tout à l'heure, non pas Sarane, ça ne va pas marcher votre combine. Les Français vont se lever contre vous.
Antoine est avec nous au 32-16. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour. Tout est excessif.
Emmanuel, vous avez constaté, est très très énervé ce matin.
Non, mais en plus, moi, je l'adore parce que j'adore son frère aussi. J'adore le petit du fou et pourtant, je vote LFI. Vous voyez, ça vous donne pas des boutons, hein, vous êtes sûr?
Vous votez LFI, Antoine. Alors justement, c'est la question qu'on pose. Est-ce que c'est pas quand même une mauvaise passe pour la France insoumise qui a eu tort de s'associer à ce type de mouvement?
Oui. Médiatiquement, c'est un problème. Moi, je vais vous dire honnêtement, ce qui se passe aujourd'hui était prévisible. Malheureusement, c'est tombé sur Quentin, c'est tombé à droite, la prochaine fois, ça tombera à gauche. Tout le monde savait qu'à Lyon, ça allait se passer. On le savait depuis le départ, la préfecture, tout le monde est au courant. Et c'est ce pourquoi je suis en colère, c'est parce que j'ai le sentiment, sans être complotif, qu'on a laissé faire. Tout simplement parce que ça arrange le pouvoir en place, ça arrange l'extrême centre qui... Tout d'un coup, on peut dire, ben voyez, regardez, voilà, ni RN, ni LFI, nous sommes le camp du bien. Et ça, c'est dégueulasse. Voilà, alors déjà, excusez-moi, condoléances à toute la famille pour Quentin. C'est vrai que c'est hyper triste, moi j'ai un gamin qui est pas loin de son âge. Je suis dingue depuis une semaine. Mais honnêtement, tout le monde savait. Qu'est-ce que fout ce collectif Némésis? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Par qui il est financé? Qui le soutient? À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. D'accord. Alors c'est pas la faute de Hassan, c'est pareil. Hassan, elle est arrivée après le tabassage. Donc
pourquoi? Oui, mais c'était quand même en marge de sa venue.
Mais si demain je vais voir un concert de Patrick Bruel, bon, hein, c'est pas des fans. Que fout le bordel là-bas? C'est la faute de Patrick Bruel.
Mais c'est pas Patrick Bruel qui provoque des troubles à l'ordre public. Pardon. Mais,
attendez, est-ce qu'elle a été condamnée? Est-ce que Rima Hassan a été condamnée pour quoi que ce soit? Si elle doit être condamnée, portez plainte. Mais jusqu'à preuve du contraire, on accuse la LFI de tous les maux.
Elle est protégée par son immunité parlementaire aussi.
Antoine, Rima Hassan, quand elle a relayé sur les réseaux sociaux une publication qui était dans laquelle il y avait Némésis doit être dissoute à l'acide, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est provocateur, ça? Elle l'a relayé
sur... C'est pas un appel à la violence?
Vous m'avez posé une question, je réponds. Je trouve ça excessif. C'est clair, c'est excessif.
Bah voilà, c'est peut-être ça qu'il faut arrêter.
Voilà, c'est que ça.
Oui, mais Rima Hassan, elle est députée européenne. On ne peut pas mettre au même niveau un militant de base et une députée européenne qui a été élu, qui est protégé aussi par son immunité parlementaire et qui a une parole qui est quand même plus forte.
Très bien, vous avez un député RN qui a demandé sa tête, qui a demandé à tuer madame.
Mais c'est pareil, c'est inadmissible.
Donc, voilà, mais oui, mais ce que je veux dire.
Ah oui, mais enfin, c'est pas parce que si tout le monde se comporte ainsi, c'est la guerre civile.
C'est pas un député RN, c'est un assistant parlementaire, c'est pas la même chose. Et en plus,
Par exemple, je vous dis juste un petit truc. Ils vous disent depuis deux jours, j'écoute toutes les interviews de toutes et même vos concurrents, et ils vous disent que si jamais il est avéré que c'est quelqu'un de la Jeune Garde qui a fait ça et qui pourtant est dissous, alors ils sont désolidarisants. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de plus? Qu'ils se mettent à genoux?
Ben Raphaël Arnault, pourquoi ont-ils investi Raphaël Arnault?
Ouais, fichier.
Mais non, mais là, je suis d'accord avec vous aussi. Mais
ben
il a
oui,
été
c'est.
Voilà,
ben
il
oui.
a été élu, il y a bien des gens qui ont voté pour lui.
Ah ben oui, ça, je suis d'accord avec vous.
Antoine, avec vous. Antoine, il faut que vous montiez dans le mouvement. Vous êtes beaucoup plus intelligent que les leaders actuels.
Ben bien sûr, mais non, mais moi, je suis désolé. Mélenchon est très intelligent. Je ne suis pas d'accord avec tout. Vous savez, je vais vous faire plaisir, Emmanuel. Moi, je suis un patriote français. De gauche.
Ça, c'est ce que j'ai compris.
Pour la droite des valeurs. Bravo. Et pour la gauche du travail. Alors, c'est pas un discours qui tient la route parce que il passe pas dans les médias, mais voilà. Moi, je suis pour la droite des valeurs et la gauche du travail. Donc, forcément, je me retrouve chez le RN, je me retrouve chez LFI, économiquement. Mais par contre, moi, la différence entre LFI et RN, c'est que le RN, le problème, c'est l'immigration. Et chez LFI, le problème, c'est l'usure et la banque. Voilà. Moi,
merci, Antoine. Merci Antoine d'avoir appelé depuis Bordeaux. Antoine qui est grutier en Gironde. Et comme les Antoine nous écoutent beaucoup, on a un autre Antoine au 32-16.
Antoine Hirsch.
Alors maintenant, c'est pas du... Alors c'est Antoine. Vous savez d'où il appelle, Antoine? Des Pays-Bas.
Ah.
Bonjour Antoine.
Bonjour.
Bonjour. Ben, vous êtes où précisément?
Juste à côté d'Arlem. Entre Arlem et Amsterdam.
Et vous vivez sur place depuis longtemps?
26 ans et je m'apprête à rentrer dans les mois qui viennent.
Ah ben oui, ça se passe bien en France, c'est calme,
oui,
en ce moment.
Oui, c'est grand bonheur. On commence à se demander si c'est le bon choix ou pas.
Alors, vu des Pays-Bas, comment vous voyez les choses?
Écoutez, moi, c'est ce que je disais à votre collègue, c'est très inquiétant. Et je ne parle pas juste uniquement de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, peu importe. Ce qui me fait très peur, je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui est un... c'est le livre « Comment les démocraties meurent ». Et en fait, c'est une étude qui a été faite, c'est un petit peu fascicule de 150 pages, très facile à lire. L'idée globale, c'est que d'un point de vue historique, très ancienne ou très récente, les mêmes causes ont amené aux mêmes conséquences. C'est-à-dire une crise économique, une crise sociale, et ensuite une crise identitaire qui amène à chaque fois élus des dictateurs, que ce soit de gauche ou de droite. Je suis pas du tout dans une question de gauche ou de droite. La seule chose qui me fait halluciner et c'est très alarmant parce que c'est européen, on l'a vu en Hollande aux dernières élections, c'est que les partis politiques soi-disant de gouvernement se complaisent dans cette dualité et dans cette opposition uniquement pour garder leur poste. Et c'est une catastrophe. Et on voit que les digues s'arrêtent. Moi, je l'ai vu en Hollande. Ça faisait des années et des années qu'on avait des sondages, des élections qui nous prédisaient l'extrême droite en premier. Mmh. Et jusqu'aux dernières élections, il y avait j'imagine que c'est un sentiment de préservation hollandais, où l'extrême droite ne passait pas. Et on l'a vu aux dernières élections, malgré tout, c'est la première fois qu'elle passe.
Oui, oui.
Et on se dirige
tout ça, en fait, ça met au pouvoir des mouvements autoritaires, des mouvements durs. Oui, ça c'est évident. Face à la chienlit, en général, il y a le réflexe de voter pour ceux qui vont promettre le retour de l'ordre. Merci Antoine d'avoir appelé depuis les Pays-Bas. Et puis vous pouvez revenir en France. Hein. ça se passe bien quand même. Heureusement, il y a d'autres choses. Alors, on a posé la question LFI est-elle encore crédible politiquement? Non. La question est posée à l'inverse. C'est pratique. La France Insoumise a-t-elle perdu de la crédibilité à vos yeux? Et vous répondez oui à 87,4%.